Ma prochaine invitée, c'est une figure incontournable des milieux féministes et communautaires au Québec. Militante depuis 1980, Mercedes Roberge consacre sa vie à l'égalité, la justice sociale et la transformation de nos institutions démocratiques. Elle coordonne depuis 2007 la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, tout en étant une référence absolue en matière de réforme électorale. Elle s'est beaucoup de chapeaux et elle va recevoir, je vais corriger, elle va recevoir bientôt un doctorat honoris causa de l'Université du Québec à Montréal. Mercedes Roberge, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Donc, on va commencer par le job que vous occupez. Vous coordonnez la table de, donc, qu'on a dit, là, de la table de regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles depuis 20 ans. Hein, ça touche 3000 groupes au Québec. C'est quoi le principal défi actuel des organismes comme ça pour préserver leur liberté d'action et leur autonomie face de plus en plus aux exigences des gouvernements?
Ben, c'est justement, tu viens de résumer, le défi, c'est de surveiller et de combattre toutes les atteintes, soit à l'autonomie, les atteintes qui passent aussi par des limitations aux droits d'association. Ça passe par le chemin souvent de règles financières, mais aussi ça passe par toutes sortes de projets de loi qu'il faut qu'on surveille au cas où il y ait des éléments qui finissent par réduire les capacités d'action des groupes communautaires et leur ancrage dans les communautés. Donc, ça peut venir de toutes sortes de provenance.
Les gouvernements nous disent toujours, on a vraiment besoin des groupes communautaires, ils font un travail important. Bon, en bon franglais, ils ramassent le slack, hein, qui n'est pas fait. Mais en même temps, ces organismes et plusieurs représentants d'organismes ont passé à ce micro pour nous dire qu'ils sont non seulement sous-financés et mal financés parce qu'on leur impose des règles à chaque fois qu'on leur donne du financement. Ça aussi, c'est un problème.
Oui, bien sûr. Il existe un financement qui s'appelle le financement de la mission globale. C'est souvent de ce financement-là qu'on parle. Les groupes avec qui moi je travaille, donc à la table, ce sont des groupes qui reçoivent ce financement-là ou qui en demandent, en tout le moins, de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux, et maintenant Santé Québec. Donc, c'est des groupes en santé et services sociaux, des groupes communautaires autonomes. Et, bon, ce financement-là est quand même celui qui offre le plus de latitude au groupe. Parce que la reddition de comptes, parce que les règles administratives sont plus légères, sont pas absentes, mais sont plus légères que d'autres formes de financement.
Par projet.
Par projet, qui là sont à refaire à chaque année, qui sont à recréer, à réinventer à chaque année.
Alors il faut rentrer dans les critères aussi prescrits par ces programmes-là.
Il y a toujours des critères, de toute façon, dans tous les programmes, même dans le programme de financement de la mission globale, mais le financement de la mission globale est là pour assurer une pérennité. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on surveille, et on le surveille à toutes sortes d'égards. On surveille le taux d'indexation de ce programme-là parce que pour continuer... Oui, bien sûr, idéalement, avoir un rehaussement annuel, mais il ne faut surtout pas perdre de capacité face à l'année précédente.
Je vais vous ramener à 1995, je pense que la date est bonne. Vous avez contribué à la marche du pain et des roses, hein, une marche quand même emblématique, où on réclamait, en fait, hein, l'émancipation, les droits pour les femmes. Et non seulement, là, on parle de toutes sortes de droits, là, pas juste le droit à l'avortement ou tout ça, mais plein de droits. Si on compare l'effervescence de cette époque à aujourd'hui, capacité de mobilisation, elle est rendue où, non?
En fait, en 1995, c'était la marche des femmes contre la pauvreté.
Contre la pauvreté, voilà,
donc, c'est spécifiquement des revendications soutenir les femmes en premier lieu, mais pas seulement les femmes, bien entendu, parce que c'est toute la société qui est moins pauvre lorsque les femmes sont moins pauvres.
Et leurs enfants?
Exact.
Parce que c'est souvent par là que ça passe aussi, hein, la pauvreté des enfants.
Oui. Et donc, en 1995, ça a été un événement marquant. Ça s'est resté dans la mémoire. On a souligné les anniversaires récemment, dont le 30e anniversaire. Et c'est resté dans la mémoire comme un moment important de mobilisation. Il y avait quand même 15 000 personnes devant l'Assemblée nationale en 1995.
Ouais.
Ce record-là a été battu depuis, mais à ce moment-là, c'était un record. Et ça montrait l'adhésion de la population aux revendications féministes. Mm-hmm. Et ça a été important pour le mouvement féministe, ça a été important aussi pour le mouvement communautaire mixte, parce que Le mouvement communautaire s'est aussi beaucoup impliqué dans cette marche-là. Les mouvements syndicaux aussi se sont impliqués beaucoup. Et ça a créé un sentiment de solidarité très fort qui a donné de l'énergie pendant quelques années qui ont suivi. Mais évidemment, comme tout, il faut toujours rallumer la braise.
Mais de nos jours, est-ce qu'on pourrait faire une autre marche comme ça?
Oui, mais les revendications seraient présentées de manière différente, oui, c'est oui. certain. En 95, par exemple, on demandait l'application de la loi sur l'équité salariale. Bon, alors, bien sûr, on est ailleurs, mais il faut quand même encore surveiller son application. Alors, ce n'est pas gagné, c'est jamais complètement gagné, il faut toujours préserver.
Si vous me permettez, je vais faire une parenthèse, mais c'est quand même intéressant. Hein, les joueurs de hockey qui sont des millionnaires, les joueuses de hockey, on est à peu près quoi? À 100 000 $ hein? C'est le gros salaire maximum qu'elles ont, les joueuses professionnelles. Alors, si on veut parler d'équité salariale, ça, c'est un bel exemple, hein?
Tout à fait, bien sûr. Il y a toutes sortes de lieux dans la société où il y a des manques d'équité.
Un autre sujet, puis on pourrait continuer en long et en large sur le communautaire et les personnes minorisées ou marginalisées. Dans un autre de vos sujets de prédilection, c'est le système électoral. Puis ça fait longtemps que ça vous intéresse, cette réforme du système électoral. Pourquoi?
Ah, ça m'intéresse. Ça a commencé à m'intéresser lorsque j'étais au collégial. J'ai découvert dans un cours sur la politique que des systèmes électoraux étaient différents d'une autre et étaient meilleurs. Alors, ça a été une espèce de révélation. J'ai repris après ça l'intérêt et j'ai surtout mis beaucoup d'énergie à documenter, à analyser les résultats électoraux, à examiner les systèmes à l'extérieur, dans d'autres pays pour qu'on voit quels étaient les défauts du système actuel, le majoritaire uninominal à un tour, pour le nommer, et vers quoi on devrait aller, parce que d'autres modèles existent, qui sont des modèles qui amènent un résultat proportionnel.
Plus précisément, parce que le temps me manque, mais plus précisément, je pense que ce qui vous intéressait, si je ne me trompe pas, c'était un frein direct à l'exercice de la citoyenneté et à l'égalité des genres.
Oui, c'est sûr, parce que... Pour moi, un mode de scrutin, ce qu'on doit rechercher d'un mode de scrutin, c'est que tous les votes comptent, mais aussi que toutes les personnes comptent. Mm-hmm. Et ça veut dire que toutes les personnes se sentent appelées à poser leur candidature, que toutes les personnes se reconnaissent en regardant le portrait de famille des membres de l'Assemblée nationale une fois élus, qu'on puisse connecter avec les personnes qu'on mandate pour prendre des décisions à notre nom. Et ça, pour moi, c'est important. Donc, c'est pas seulement un calcul de pourcentage de vote et d'un calcul mathématique. C'est de s'assurer que les gens qu'on mandate pour nous gouverner, non seulement les partis qui se réunissent à l'Assemblée nationale pour faire ça, sont le reflet de ce que la population demande, mais aussi que les personnes qui administrent tout ça se sont reliées à la population, que tout le monde se reconnaît dans tout le monde.
Alors, c'est des promesses qui n'ont jamais été tenues hein, par beaucoup de gouvernements. Continuez à vous battre quand même malgré ça?
Ah oui, bien sûr, parce que c'est le propre de la transformation sociale, de toute action qui cherche la transformation sociale, et de la militance. C'est le propre de la militance. Lorsqu'on travaille pour obtenir quelque chose, ben, tant qu'on ne l'a pas, on continue.
J'aimerais terminer avec parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire avec vous, mais ce doctorat honoris causa, comment vous le recevez?
Ah, c'est vraiment chouette, c'est très, très impressionnant et je trouve ça chouette pour moi, bien sûr, bien entendu, mais aussi pour le mouvement communautaire, parce que c'est pas des reconnaissances qu'on reçoit souvent. Et moi, mon parcours n'est pas un parcours universitaire. J'ai appris en travaillant dans le mouvement communautaire, en militant dans les groupes communautaires. Puis je ne suis pas la seule à avoir ce parcours-là. Mais que ce résultat-là, que ces connaissances-là soient reconnues comme un apport important à la société, c'est important et ça fait du bien, je trouve, à tout le monde. Ça fait du bien au mouvement. Je suis contente.
Puis je pense que vous croyez beaucoup à ce transfert, à ce partage des savoirs, hein?
Oui, bien sûr, parce que comment on ne peut pas espérer des changements seul de son côté. Il faut faire une gang, il faut avoir un mouvement, il faut se mettre ensemble.
Ah, je vais dépenser un petit montant. Un message à toutes ces autres personnes militantes là, en herbe ou qui commencent de votre part?
Oh, il ne faut pas lâcher. C'est difficile. Il faut reconnaître que c'est difficile. Ça prend de l'énergie, ça prend du courage, ça prend de la motivation, ça prend des encouragements aussi. Mmh. Et c'est important qu'on se les donne, ces encouragements-là, entre nous.
Surtout de nos jours. J'aime pas ça le répéter, mais c'est vrai que c'est... il me semble que le climat n'est pas très bon dans notre société ces jours-ci. Là.
Non, mais ce n'est pas le seul moment où ce n'est pas bon.
Ouais.
C'est souvent comme
faut
ça.
Il faut regarder ça avec, avec un recul.
Et c'est important. Il faut célébrer tous les gains. Puis les gains, c'est pas seulement les résultats positifs, c'est aussi d'avoir combattu. C'est un gain.
Excellent. Merci beaucoup, donc, Mercedes Roberge, et félicitations pour ce doctorat honoris causa que vous allez recevoir
le 5 juin.
Ah, bien, félicitations. Merci.
Merci.